Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. À la une, Clara, la forêt landaise à nouveau ravagée par les flammes.
Le répit aura été de courte durée. Le département fait face à un nouvel incendie. 1100 hectares partis en fumée, plus de 500 personnes évacuées. Un week-end du 15 août, très compliqué côté transport, grève SNCF vers la Normandie et une grève chez EasyJet, 40 vols annulés demain au départ de la France. Et puis, le Paris Saint-Germain s'offre un champion du monde, accord trouvé avec le Barça pour l'Espagne. Ferran Torres monte en potentiel du transfert 55 millions d'euros.
Un nouvel incendie est en train de ravager les Landes.
Le département meurtri, il y a quelques semaines seulement, à nouveau victime des flammes. Depuis hier, 1100 hectares partis en fumée à Luglon, c'est au nord-est de Mont-de-Marsan. Plus de 500 personnes évacuées et cette nuit, les pompiers ont pu le contenir grâce à un vent un peu plus faible. Mais Célestin Bougère, les habitants se réveillent sonnés.
Oui, pour certains, la nuit a été longue et difficile. Emmanuelle est restée chez elle avec son compagnon et son neveu pour surveiller le bois autour de sa maison.
On a fait des rondes toutes les heures pour se remplacer, surveiller que le feu n'arrive pas et faire attention à ne pas se mettre en danger, ça c'est certain. Là, ce matin, il y a beaucoup de fumée, puis il y a des cendres un petit peu partout, ça sent fort la fumée.
Mais au moment de se reposer, difficile de fermer les yeux. Emmanuel est aussi inquiète pour ses poules et son chat qui ne sont pas rentrés cette nuit. À cause de l'angoisse permanente de voir les flammes se rapprocher, elle n'a réussi à dormir qu'une heure.
De toute façon, le moindre bruit, ça réveille ou ça inquiète. Puisque comme les feux peuvent aller très vite dans le sens où ils font des sauts de 2 à 3 kilomètres, c'est énorme.
Une nuit de lutte également pour Clément, un agriculteur qui a décidé d'aider les pompiers.
On a une cuve là, on a une capacité de 6000 litres, une pompe et des tuyaux. Et on est là pour défendre le village et on fait ce qu'on peut. C'est chez nous, donc ouais, c'est pas fait mal au cœur d'avoir tout ça.
Un combat constant pour protéger les habitations de ce village qui ont été épargnées par les flammes pour l'instant.
Les toutes dernières précisions et ces témoignages avec vous, Célestin Bougère en direct pour RMC. Dans le Pas-de-Calais, sur les dunes de la Côte d'Opale, l'incendie est contenu, pas encore fixé. Il l'est en revanche à Guérande, à l'ouest de Nantes, feu de végétation qui a contraint hier 2000 campeurs à évacuer. Le mois dernier, en Gironde, deux pompiers sont morts près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, pris au piège par les flammes dans leur camion. Un adolescent de 15 ans est désormais mis en examen dans cette enquête. Interpellé avec son frère de 22 ans, frère aîné qui l'a disculpé pendant sa garde à vue. L'adolescent a été placé en centre éducatif fermé.
Les pompiers, justement, très déçus par leur rencontre avec Laurent Nunez.
Elle n'a pas calmé la colère des 9 syndicats venus demander plus de moyens. Ils en ressortent, disent-ils, sans réponse concrète. Romain Cluzel, service politique d'RMC. Le ministre a pourtant tenté de faire un pas vers eux.
Oui, les deux annonces de Laurent Nunez laissent les sapeurs-pompiers sur leur faim. D'abord, concernant le projet de loi pour moderniser la sécurité civile. Ce texte est attendu depuis près d'un an par les sapeurs-pompiers. Il sera présenté au syndicat le 8 septembre, mais aucune date pour son examen au Parlement n'est encore fixée. Laurent Nunez promet aussi une augmentation des budgets des services départementaux d'incendie et de secours, sans s'engager sur des montants qui restent à négocier avec les départements et les communes. Alors, les sapeurs-pompiers estiment que le ministre n'est pas au rendez-vous et ils veulent lancer une mobilisation d'ampleur à partir du 26 septembre, au moins 4 jours de manifestation sur la place de la République à Paris pour réclamer entre autres la création de 21 000 postes de sapeurs-pompiers professionnels.
Une découverte macabre à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne en région parisienne. Une jeune femme retrouvée morte dans un local technique de l'hôpital. Les conditions de sa mort restent à éclaircir, mais Pierre Bazin, cela pourrait être dû à la chaleur.
Oui, puisque c'est dans la chaufferie de l'hôpital que le corps a été découvert hier matin. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime serait une jeune femme qui n'appartiendrait pas au personnel de l'hôpital et qui ne portait pas non plus de bracelet d'admission obligatoire pour tout patient. Son corps a été découvert avec des traces de brûlures, laissant penser que la chaleur est responsable du décès. Mais c'est l'autopsie qui permettra de déterminer les raisons de sa mort. Quant à sa présence dans le local technique, là encore, le mystère reste entier. D'après une source policière, quelques jours avant les faits, des ouvriers avaient réalisé des travaux dans le local et ils auraient pu mal refermer la porte, laissant ainsi un accès plus facile à cet espace. Des traces de sang ont par ailleurs été constatées sur le sol. Les investigations vont donc devoir déterminer en priorité l'identité de la victime et si un tiers est intervenu dans ce décès.
Pierre Bazin du service police-justice d'RMC.
Un chassé-croisé bien compliqué ce week-end.
Avec du monde sur la route. C'est rouge dans le quart sud-est dans le sens des retours, orange partout ailleurs dans le sens des départs. Ça va aussi rouler difficilement dans ce même quart sud-est. Demain, ce sera pire. Rouge partout et même noir côté départ en Auvergne-Rhône-Alpes. Ajoutez à cela une grève SNCF, un TER sur deux annulé dès aujourd'hui en direction de la Normandie et une grève chez EasyJet. Environ 40 vols annulés demain au départ de la France. Probablement autant dimanche. Vincent Chevalier, les voyageurs de la compagnie low cost contraints de s'organiser.
À trois jours du départ, Aurore, une habitante de l'Aisne, garde le sourire.
Ça aurait pu aller mieux, mais ça va quand même.
Elle est censée partir dimanche midi à Marrakech avec EasyJet, un voyage réservé depuis plusieurs mois.
Puis là, en plus, c'était pour l'anniversaire de mon mari, c'est 40 ans, donc on croise les doigts et on se dit, allez, peut-être que notre vol sera pas impacté. C'est vrai qu'on est un peu dégoûté quand même, quoi.
Conscient de l'impact d'une grève le week-end du 15 août, les syndicats assument, ils veulent marquer le coup et dénoncer l'instabilité chronique des plannings. William Bourdon, secrétaire de la section EasyJet pour le syndicat SNPN-CFO.
Qui dit fatigue accrue chez les personnels navigants dit la sécurité qui est compromise potentiellement, puisque si les PNC ne peuvent pas avoir les temps de repos adaptés, sont constamment perturbés, je pense à des bases comme Lyon par exemple, qui vont subir des 50 voire 60 changements de planning par mois. Ils sont très stressés, très perturbés, très fatigués. Automatiquement, ça met en péril la sécurité de nos passagers.
Dans un communiqué, EasyJet se dit déçu de cette action menée malgré sa proposition d'ajustement, la compagnie demande au syndicat de renoncer à cette action qualifiée d'opportuniste.
Eh bien justement, si vous voulez réagir à ces mouvements de grève en plein week-end de départ ou de retour de vacances, vous nous appelez au 3216.
Un week-end du 15 août qui s'annonce encore chaud, même si le pic de la canicule sera passé et que les températures doivent commencer à baisser. 75 départements en vigilance orange aujourd'hui. Et face à la chaleur, les cinémas deviennent des refuges. Hausse de fréquentation, les records en juillet, plus 42% par rapport à la même période l'an dernier, se félicite la Fédération Nationale des Cinémas Français, le secteur bien sûr porté par les dernières sorties de films, mais donc aussi par la canicule, Grégoire Morelli.
Annabelle est une fidèle de ce cinéma parisien et plus il fait chaud, plus elle regarde de films.
Pendant la grande canicule de juin, j'y suis allée 3-4 fois. Dans la même journée, je pouvais aller de 10h et repartir à 23h, même minuit, tellement il faisait chaud et que c'était insupportable.
André, lui, 70 ans passé, soupire de soulagement en rentrant.
D'arriver là, ça fait du bien. Hein.
Il vient en avance pour profiter au maximum de la climatisation.
Je suis venu parce que j'avais trop chaud chez moi. Et j'ai passé 3 après-midi de suite au cinéma.
Pareil pour Lou et Antoine, arrivés avec plus de 20 minutes d'avance.
Là, il fait quand même une chaleur dingue et c'est vrai que même en dehors des salles, enfin même là, c'est climatisé, donc c'est cool.
Et ce mercure élevé, ça leur donne même des idées de films à regarder.
Comme par exemple la comédie française, peut-être qu'on va aller le voir aussi. Alors qu'on serait pas allé le voir normalement.
Entre les canicules et les films à l'affiche, les salles de cinéma françaises tablent sur 190 millions d'entrées cette année, soit près de 30 millions de plus qu'en 2025.
La plateforme des impôts victime d'une cyberattaque, confirme le ministère de l'économie, après la revendication d'Ibercy d'un acteur malveillant. C'était hier, avant-hier, un piratage fin juin du site impots.gouv.fr qui a permis d'accéder à l'adresse, au numéro de téléphone et au numéro fiscal notamment des déclarants. 700 000 usagers potentiellement concernés. C'est officiel. Au Royaume-Uni, Nigel Farage est réélu député. Le chef du parti anti-immigration Reform UK avait démissionné après des scandales financiers avant de se présenter à nouveau. Élection boycottée par les partis traditionnels. Nigel Farage a donc gagné face notamment au candidat satirique Count Beanface, un candidat à la tête de poubelle.
On sait désormais avec qui Zinedine Zidane va travailler.
Le nouveau sélectionneur des Bleus a officialisé son staff hier, parmi lesquels son fidèle David Bettoni, son adjoint de la première heure au Real Madrid, un ancien coéquipier également, Fabien Barthez, le champion du monde 98 qui sera en charge des gardiens. Et nouveauté, un podologue fera partie du staff. Marc Retali a été choisi, il a longtemps travaillé avec le club de Sochaux. Prévenu au dernier moment, il n'en revient toujours pas.
J'ai même cru une blague au début. Je me disais, c'est pas possible. Zinedine Zidane, c'est un monument pour nous, les Français, en fait. Donc, rentrer dans son staff à lui, je sais pas, c'est un peu comme si le général de Gaulle, il vous appelle pour aller faire une mission spéciale, quoi. C'est pareil. C'est un peu un monument national pour nous tous. On a tous une histoire avec France 98. Et un peu comme la veille de Noël, en fait. On attend juste que la nuit soit passée pour aller voir les cadeaux. Ben là, ça va être pareil. C'est l'endroit où j'ai toujours voulu être, en fait, clairement.
Le Paris Saint-Germain, lui, toujours en plein mercato, avec bientôt dans ses rangs un champion du monde, l'Espagnol Ferran Torres doit arriver du Barça. Les négociations sont en très bonne voie, David Alias.
Oui, puisqu'un accord de principe a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de Ferran Torres. Après une première offre de 40 millions d'euros rejetée en début de semaine par le Barça, Paris est finalement parvenu à séduire les dirigeants catalans et les deux clubs se seraient mis d'accord pour une opération avoisinant les 55 millions d'euros. Le joueur devrait s'engager pour 5 ans. Seul buteur et héros de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, l'attaquant espagnol au profil polyvalent plaît énormément à Luis Enrique. Le technicien parisien a déjà entraîné Ferran Torres lors de son passage à la tête de la sélection espagnole. Ce mercredi, le champion du monde n'a pas participé à l'entraînement du FC Barcelone, signe que son arrivée au Paris Saint-Germain se précise.
David Alias pour RMC.
Merci beaucoup Clara, RMC 8h11. Dans un instant, il est guéri à 70%. Il ne fera que deux courses, mais il pourrait décrocher deux records du monde. Le phénomène Léon Marchand replonge ce matin dans les bassins des championnats d'Europe de Saint-Denis. Sophie Camoun, consultante natation d'RMC, est avec nous. Dans un instant, elle nous dit ce qu'on peut attendre de ce week-end. C'est donc dans un instant sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h14, c'est le moment qu'on attend tous. Léon Marchand entre en lice ce matin en individuel au championnat d'Europe, série du 200 mètres papillon à 9h30, demi-finale ce soir, finale demain, puis 400 mètres nage libre dimanche, un programme réduit, hein, le quadruple champion olympique a renoncé aux 200 et 400 mètres 4 nages, touché à un adducteur, il est guéri à 70%, nous dit-on, les Bleus en tout cas comptent déjà 6 médailles depuis lundi et suscite un véritable enthousiasme. Bonjour Sophie Camoun.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Sophie, vous êtes consultante natation pour RMC. Avant de parler de Léon Marchand, Sophie, d'abord un petit mot, votre réaction à l'annonce de la retraite de Florent Manaudou, on l'a appris ces dernières heures, hein, une légende de la natation française qui s'en va. Bon, c'était attendu Sophie?
Oui, c'était attendu puisqu'il n'a pas remis les pieds dans l'eau depuis les Jeux Olympiques de Paris en 2024, même si on espérait, parce qu'on sait que c'est un nageur de 50 mètres, donc il peut nager sans faire trop d'entraînement. On espérait peut-être qu'il allait se remettre à l'eau pour les championnats d'Europe de Paris. Il ne l'a pas fait, on sait maintenant qu'il ne reprendra plus. C'est une légende simplement qui raccroche le maillot de bain à un garçon qui a beaucoup, beaucoup apporté à la natation française et qui y est pour beaucoup dans les résultats de la natation française d'aujourd'hui.
Il a 35 ans, il aurait pu continuer un peu ou pas? C'est pour un nageur 35
Anthony,
ans aujourd'hui.
Anthony Irvine l'avait battu, le nageur américain Anthony Irvine l'avait battu aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et il avait 34 ans. On peut encore performer sur des épreuves comme le 50 mètres, on peut encore performer à 34-35 ans, mais Florent a déjà fait 4 médailles aux Jeux Olympiques, ouais. C'est le plus beau palmarès de l'histoire de la natation française.
Il a déjà beaucoup
française.
Donné.
Exactement, en longévité, ouais. Je parle, c'est vraiment le plus beau palmarès. Il a porté la natation française entre 2016 et 2022, au moment où ça n'allait pas du tout. Il a permis à la natation française d'éviter de se noyer, on peut le dire. Il a été le seul nageur à remporter une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. On lui doit énormément, et voilà, qu'il profite de sa retraite et qu'il soit heureux.
Et il faut dire qu'il y aura une belle cérémonie demain annoncée, hein, demain à 18h, en présence de sa sœur Laure Manaudou. Dans quel état physique et mental est Léon Marchand ce matin, avant de se présenter dans les bassins?
Alors ce matin, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, il va bien parce qu'il a quand même fait une performance supersonique le premier jour de compétition au départ du relais 4x200.
Alors qu'il est gêné par une blessure.
Forme. Oui, alors il est gêné surtout en brasse. Hein. C'est la raison pour laquelle il a déclaré forfait aux 200 brasses et dans les épreuves de 4 nages, parce qu'il y a un parcours de brasse dans les épreuves de 4 nages. Il est beaucoup moins gêné dans les autres nages, et notamment en papillon et en nage libre. Et d'ailleurs, ce matin, il s'élance sur le 200 mètres papillon. C'est une épreuve, souvenez-vous, la dernière fois qu'il l'a nagé au plus haut niveau international, c'est quand il a remonté le Hongrois Christophe Milak dans le dernier 50 mètres de la finale des Jeux Olympiques. Je pense que tout le monde s'en souvient. Il n'a pas renagé depuis, et pourtant on sait qu'il a beaucoup progressé physiquement, techniquement, et je crois qu'il a dans un coin de sa tête le fait d'aller chercher ce record du monde historique de Christophe Milak, puisque ça, c'est un record qui date de 2019. Et pour la petite anecdote, Léon disait encore il y a 2 ans, ce n'est pas un record du monde, c'est un record d'un autre monde. Et aujourd'hui, il veut aller le chercher. Et on aimerait bien, parce que Christophe Milak a quand même pris le record d'Europe à Maxime Grousset sur le 100 mètres papillon hier. Donc, ouais. Je pense que Léon, qui est un grand copain de Maxime, a bien envie de le venger aujourd'hui.
Il a déjà été hyper impressionnant là sur le relais ces derniers jours.
Oui, hyper impressionnant sur le relais, et ce qui aussi nous laisse penser que il peut aller chercher quelque chose de très grand sur 400 mètres nage libre. On l'a vu sur 200 au départ du relais mettre 2 secondes à l'Allemand Martens. Et l'Allemand Martens, c'est tout simplement le garçon qui vient de battre le record du monde du 400 mètres. Mmh. Donc ces deux gars vont s'affronter dans 2 jours dans l'épreuve du 400 mètres. Et de plus en plus, autour du bassin, on entend des rumeurs disant que Léon peut non seulement gagner le 400 mètres, mais pourquoi pas aller battre le record du monde de Martens. En tout cas, Léon, c'est un garçon qui a besoin de challenge, qui a besoin de faire des choses qu'il n'a jamais faites auparavant. Mmh. Et ce 400 mètres, c'est un énorme challenge pour lui.
Sophie, restez avec nous. Lucie nous rejoint au 32-16. Bonjour Lucie.
Bonjour.
On est à 3 dans l'Aube.
Oui.
Vous faites quoi dans la vie, Lucie ?
Agent immobilier.
D'accord. Et vous êtes hyper enthousiasmée par ces championnats d'Europe ?
Ah oui, bah la natation, entre les JO et là maintenant, oui.
Vous êtes nageuse vous-même ou pas, Lucie ?
Oui.
D'accord. En club ?
Oui.
D'accord. Et vous dites, depuis les JO de Paris 2024, vous n'avez pas... vous êtes toujours aussi enthousiaste ?
Ah oui, toujours, oui, ils sont extraordinaires quand on voit ce que Maxime Grousset fait, alors qu'on sait qu'il est diminué, et ce qu'il arrive à faire sur le 50 ou le 100 papillons encore hier, c'est merveilleux, c'est une résilience et ça donne vraiment une inspiration pour les jeunes pour, quand on veut, on peut, et que, voilà, le sport est très important.
Lucie, merci d'avoir été avec nous. Lucie qui nous appelait depuis l'Aube. Elle nous parlait de Maxime Grousset, Sophie Camoun. Maxime Grousset, il faut en parler.
Ah bah oui, vous pouvez en parler. Il a déjà décroché 3 médailles, alors qu'il y a encore 15 jours, il ne savait pas s'il allait participer à ces championnats d'Europe. Savoir qu'il s'est cassé le pied il y a exactement 2 mois, qu'il a nagé pendant 1 mois avec une botte, en tout cas sans pouvoir utiliser ses jambes. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est phénoménal. Il est déjà au niveau de ce qu'il a fait l'année dernière quand il a été double champion du monde, alors qu'il a eu une préparation totalement tronquée. Donc Maxime Grousset progresse, Léon Marchand progresse, nos meilleurs nageurs progressent et emmène dans leur sillage tout un tas de jeunes.
Et c'est vrai que cette ambiance, il faut en parler aussi de l'ambiance qui est actuellement à Saint-Denis. Là. Certains nous disent qu'on retrouve l'ambiance des JO 2024. Ça fait du bien, ça fait plaisir.
Ça fait du bien. Moi, je trouve que c'est presque encore mieux. Parce que la piscine est plus petite. Il y a une capacité de 5000 personnes. Au JO, c'était 3 fois plus. Et je trouve que le public, la piscine et l'enceinte est plus petite. Donc, le public est encore plus près des nageurs. Et on a l'impression qu'il y a une vraie, vraie communion entre les nageurs et le public. En plus, c'est un public de un peu plus de passionnés, de gens qui sont proches de la natation. Donc, on a l'impression que c'est une immense famille qui se retrouve pendant ces championnats d'Europe. Mmh. Et moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique pour la natation française d'avoir eu ces Jeux Olympiques, d'avoir ces championnats d'Europe 2 ans après, d'avoir cette exposition-là. Et ça va permettre de continuer à développer la natation dans les clubs, dans les écoles de natation aux quatre coins de la France. Mmh. Et c'est ce que disait votre invité tout à l'heure.
Merci beaucoup, Sophie Camoun, consultante natation pour RMC, d'avoir été avec nous ce matin. Et les championnats d'Europe de natation, c'est à vivre en direct évidemment sur RMC. Ce sera ce soir, Intégral Sport, entre 18h et 20h. RMC 8h22. Pierre Rondeau, notre économiste, est avec nous dès la semaine prochaine. Pierre, commence la rentrée littéraire, la rentrée de la, peut-être en tout cas, de la dernière chance pour un marché qui est en berne.
Oui, hein, Rémi, dès la semaine prochaine va commencer la fameuse rentrée littéraire avec la sortie de 461 nouveaux romans étalés jusqu'au mois d'octobre. Le chiffre 461 nouveaux livres est en légère baisse par rapport à 2025. Il faut dire que les ventes de livres ne sont pas bonnes depuis quelques temps. Une baisse de 1,5% en 2025 et 6,8% sur le seul premier semestre 2026. Cette année, on a appris le placement en redressement judiciaire du groupe Gibert, premier libraire indépendant, et quelques semaines plus tard, les librairies Furet du Nord et Descitres étaient elles aussi en difficulté financière. Autre donnée inquiétante, en 2025, il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures de librairies. Alors oui, cette rentrée littéraire est un peu celle de la dernière chance.
Alors comment l'expliquer, Pierre ? Les gens ne lisent plus ?
Alors si on veut être très factuel, non. Les gens ne lisent pas moins, c'est même le contraire. Selon le Centre National du Livre, le nombre moyen de livres lus par an en 2015 était de 16, contre 18 aujourd'hui. Les gens lisent donc plus, mais ils ont simplement adapté leur façon de consommer la littérature. Il y a l'essor du livre numérique, du livre audio, qui ne sont pas forcément vendus en librairie. L'explosion de la vente du livre d'occasion sur les sites notamment comme Vinted, puis surtout la concurrence des plateformes comme Amazon, où l'on peut commander directement sur Internet et se faire livrer à domicile. On ne rentre plus dans une librairie, on ne feuillette plus les pages avant d'acheter un livre, on ne demande plus de conseils auprès de son libraire et on ne soutient plus le petit commerce.
Alors que c'est encore un secteur qui pèse énormément.
Oui, parce qu'au-delà de l'aspect culturel, le marché du livre est un secteur économiquement très important. La filière représente environ 80 000 emplois directs et indirects, ce qui en fait le premier employeur des industries culturelles. Alors oui, on n'a pas opposé plateforme de vente en ligne et librairie. On n'a pas de chance parfois de ne pas avoir une librairie près de chez soi, accessible et bien fournie. Mais pour sauver des emplois, essayer d'aller plus souvent dans des librairies, ne serait-ce que pour l'ambiance.
Vous allez être nombreux à prendre la route dans les heures qui viennent pour rentrer de vacances ou partir en vacances. Un point sur les prix des carburants.
Alors ça augmente malheureusement pour le grand départ en vacances. Le litre de samplon 95, il est à 1,99€, 1,979€ hier. Le gazole 2,195€, lui aussi il augmente puisqu'il était hier à 2,176€. Le baril de pétrole baisse très légèrement à 86,68€. Et le gaz lui aussi augmente à 60,59€.
On parlait de départ en vacances, lui est toujours en vacances Arnaud Demanche, mais il nous a laissé son meilleur.
Arnaud Demanche qui nous rejoint, salut Arnaud.
Bonjour les amis, allez, pour démarrer la journée, un sourire Apolline, car on va parler du député Rassemblement National Mathias Renaud. On s'est foutu de sa gueule partout, mais pas encore ici, et c'était pas très juste, il était temps de réparer, parce qu'il a voulu supprimer les subventions du festival Les Transmusicales de Rennes. Il croyait que c'était un festival de promotion des transgenres dans la musique, donc ça aurait été quoi ? Un festival avec que Raïm Redcar, anciennement Christine and the Queens, qui s'appellera Frigidaire Tournebeuf l'année prochaine, on ne sait pas. Mais bon, Mathias Renaud, il faut faire attention. Transavia n'est pas une compagnie aérienne avec des avions pilotés par des drag queens.
Salut les loulous, ici Lolita Banana, votre pilote assisté du commandant Zouzou Barbichou. La température en cabine est très chaude. Le décollage est immédiat, même si c'est pas facile de piloter avec des talons et des ongles de 20 cm. Attachez vos ceintures, c'est parti pour toute la night.
Et le pauvre Mathias Renaud fait... Cuisse de poulet ou queue de lotte?
Je veux sortir d'ici!
Donc, les pays transfrontaliers, c'est pareil. Il n'y a pas de transgenre à toutes nos frontières, voilà. À part en Allemagne, avec des femmes de 95 kilos de muscles et une moustache. Et si tu prends un transsibérien, c'est pas Vladimir Poutine sous œstrogène qui te fait l'amour. Sa vie doit être un enfer.
Le gouvernement va envoyer une lettre à tous les Français de 29 ans.
Oui, la France, comme Jeffrey Epstein, a besoin d'enfants. Oh, alors par contre, une lettre de Le Cornu pour relancer la natalité. Oui. Est-ce que ça vous motive,
Apolline ? Oui, j'ai un petit doute sur l'efficacité.
Est-ce que, tu recherches les célibataires les plus fertiles à moins de 5 km de chez toi ? Tu veux rencontrer les géniteurs les plus chauds de ta région ? Alors inscris-toi sur France Levrette. Et inscris-toi à la crèche aussi, parce qu'il y a 3 ans d'attente. Voilà. Si vous appelez ça, c'est parce que vous avez appelé un numère au vert.
Elle est bonne. Au vert, elle est excellente.
Moi, j'aurais proposé à Bruno Le Maire d'écrire la lettre.
Ah oui.
Citoyenne, tu es chaude et moite.
Oh,
et soudain, tu aperçois un cotisant français torse nu sur une plage de sable fin. L'envie de créer un nouveau ménage imposable fait durcir tes mamelons patriotes.
T'es sûr, Bruno? Il y a quelques années, souvenez-vous, on disait pas ça, on disait attention à la surpopulation, ne faites pas d'enfants, c'est du carbone, oui. Ça rendait tout le monde coupable. D'ailleurs, moi, c'était ma défense numéro 1 pour prendre l'avion. Je disais, M'en fous, j'ai pas d'enfant. Ouais, mais ça veut pas dire que t'as le droit de prendre l'avion. Non, ça veut dire que j'ai les moyens de prendre l'avion.
Allez, dans un instant, la météo, le journal de 8h30 et puis sécheresse historique. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, vient détailler son plan d'aide. Combien est-elle prête à débloquer pour venir en aide au monde agricole? C'est dans un instant sur RMC, RMC Story. Les prévisions météo, c'est avec Charlène Villemer. Il va faire chaud et ça va encore durer, Charlène.
Oui, les jours se ressemblent et se suivent. Le thermomètre va frôler les 41 degrés dans la vallée du Rhône. Cet après-midi, la chaleur, elle commence à se décaler vers l'est. 40 degrés à Nevers, à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Très chaud encore dans le sud-ouest aujourd'hui. Surtout dans les terres, avec 40 degrés à Toulouse et Montauban. Plus doux sur le Pays Basque, déjà 26 degrés à Biarritz. Les Bretons et les Normands commencent à respirer. 25 degrés attendus à Brest et à Cherbourg. Et puis les premiers orages vont se mettre en place sur l'ouest des Pyrénées, le massif central, la montagne Corse ou encore les Alpes. Les nuits, elles vont encore se ressembler, malheureusement. Encore une nuit tropicale la prochaine, avec 28 degrés près de la Méditerranée.
RMC 8h30.
On a deux feux ou deux zones de feu. La principale qui est là qui a commencé.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Guides. Clément, l'inquiétude est grande dans les Landes où le feu continue de gagner du terrain.
La surface a brûlé, a doublé depuis hier, 1100 hectares depuis hier et plus de 500 personnes évacuées. La canicule et la sécheresse forcent l'annulation de nombreux feux d'artifice pour ce week-end du 15 août. Et les frères Collet vont vivre ensemble aujourd'hui le premier grand championnat d'Europe d'athlétisme en Angleterre, engagé sur le saut à la perche.
Le feu prend de l'ampleur dans les Landes.
Les flammes se rapprochent de la commune de Luglon et les mauvaises conditions météo ne facilitent pas le travail des pompiers. 1100 hectares brûlés, 525 personnes évacuées depuis hier. Gilles Cravol, préfet des Landes.
On a deux feux ou deux zones de feu. La principale qui est là, qui a commencé hier après-midi, et puis une saute un petit peu plus loin, direction sud-est. Des petites blessures légères pour 5 sapeurs-pompiers. On s'attendait à franchir le seuil des 1000 hectares. On n'est pas surpris par l'évolution des choses. Là, on sait que la journée va être encore très intense, hein, qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des moyens d'un petit peu partout qui ont afflué. Et puis encore, grosse capacité de moyens aériens. On a vraiment tout ce qui est disponible. Hein.
Les pompiers toujours mobilisés sur le littoral du Pas-de-Calais. L'incendie qui a démarré mercredi n'est toujours pas fixé. 180 hectares brûlés, 3 sapeurs-pompiers légèrement blessés. Un adolescent de 15 ans mis en examen après l'incendie près de l'aéroport de Mérignac en Gironde le mois dernier, qui avait coûté la vie à 2 pompiers. Il a été placé en centre éducatif fermé.
Les pompiers qui réclament des moyens, le gouvernement leur promet une réforme.
Le ministre Laurent Nunes annonce un projet de loi pour moderniser la sécurité civile. Mais pas question pour l'instant de promettre des milliards. Le ministre veut d'abord trouver un accord avec les départements.
Ça n'est pas rien que le gouvernement dépose effectivement un projet de loi. Ça n'est pas rien dans le contexte politique que nous connaissons. Et ça n'est pas rien que nous ayons acté le fait de travailler sur les ressources des services départementaux d'incendie et de secours. On m'a demandé de m'engager sur des chiffres. Évidemment, je ne le peux pas. Pour les moyens, nous devons aussi composer, et c'est normal, c'est la libre administration des collectivités locales avec les élus. La partie qui nous concerne, je le redis, nous avons augmenté le budget de l'État de 10% cette année, de 93% si on prend la séquence des 10 dernières années. Voilà, pour la partie qui est la nôtre, on fait évidemment le job.
Les pompiers sont très déçus par les promesses du ministre. Eux veulent plus de moyens, recrutement massif de sapeurs et l'adoption rapide d'un projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Une mobilisation est prévue le 26 septembre prochain partout en France.
Il va encore falloir faire avec la chaleur.
Une grande partie de la France est en vigilance orange canicule. Ce sera le cas également demain, comme nous l'a annoncé en début de ce journal Charlène Villemer. Conséquence de cette chaleur et de cette sécheresse, de nombreuses communes annulent leurs feux d'artifice prévus ce week-end du 15 août, de la Gironde au Nord-Pas-de-Calais, Anna Jojard.
Pas de feu d'artifice ce 15 août à Pertuis dans le Vaucluse.
On se dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
Aurélien Auclair est le maire de la commune.
Nous avons connu cet été là 4 incendies importants. Reporter un feu d'artifice, oui, ça coûte de l'argent, mais je pense que quand on voit les dégâts que le feu peut causer, le désarroi et la fatigue de nos pompiers, mais finalement on se dit que si on peut leur donner un petit coup de main et pas leur rajouter du travail, c'est du bon sens.
Et ce maire s'interroge sur l'avenir de ces feux d'artifice en été. Plus à l'ouest, dans l'Aude, les mairies de Fleury et Narbonne ont déjà tranché.
On change de saison.
saison pour les feux d'artifice. Ils ne seront plus tirés l'été. C'est définitif.
Bertrand Malquier, le maire de Narbonne.
Donc chaque année, on annulait, on déplaçait les feux d'artifice et on avait toujours une épée d'Amoclès. On a choisi d'avoir deux nouvelles saisons, le printemps et l'hiver, qui seront plus favorables.
Un changement de saison auquel se préparent les artificiers. Jérôme Julien est gérant de la société Pyro Event en Isère.
On a déjà commencé, nous, lors de la signature des feux d'artifice, à prévoir de suite une date de report sur l'hiver, notamment. Vu les conditions météo qui s'aggravent, malheureusement, hein, je pense qu'on va être obligé de travailler comme ça.
Et sur les 80 feux d'artifice qu'il avait prévus cet été, il estime en avoir tiré seulement 10.
RMC 8h34, le site des impôts piratés.
L'attaque aurait eu lieu fin juin et la Direction Générale des Finances Publiques tente toujours de déterminer l'ampleur de la faille. Et Caroline Renaud, derrière cette cyberattaque, ce sont des données de milliers de contribuables qui pourraient être concernés.
Oui, le pirate y aurait eu accès grâce à une usurpation d'identité. Avant d'être expulsé des serveurs, il aurait ainsi dérobé les données de particuliers et de professionnels. Des noms, dates de naissance, identifiants fiscaux ou encore numéros de téléphone. Le ministère de l'économie ne précise pas le nombre de contribuables concernés, mais selon le site spécialisé French Bridges, ce sont les données de près de 700 000 personnes qui auraient été extraites et le fichier serait désormais en vente pour plusieurs milliers d'euros. Les usagers concernés seront bientôt contacter. Mais prudence, si vous recevez prochainement un appel prétendant venir des impôts, ne communiquez jamais vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires par téléphone.
Donald Trump sort encore l'arme des droits de douane et cette fois, les drones sont dans le viseur. Les drones importés pourraient désormais être frappés de droits de douane allant jusqu'à 100%, une mesure qui vise notamment les technologies étrangères, celles notamment européennes.
Armez-vous de patience si vous êtes sur la route ce week-end.
Canicule, bouchons et circulation classée rouge demain, voire noire dans le sud-est et certains automobilistes prennent les devants. Alexandre Thibault, vous les avez pu les rencontrer.
Selma arrive à Dax pour le week-end, près de 2 heures de route avec 40 degrés dans la voiture, sans clim.
C'est dur, il fait chaud, on sue de partout.
Alors pour son retour ce week-end...
Pour éviter la chaleur, on va partir plutôt début de matinée. Comme ça, on n'a pas la vague de chaleur et le gros pic à 15h, 14h qui va nous taper dedans, quoi.
Pour les supporter, ces chaleurs, chacun sa solution. Sur une aire d'autoroute du sud-ouest, François mange une glace.
Déjà, c'est boire beaucoup d'eau et puis effectivement se faire plaisir avec une petite glace de temps en temps.
Et surtout pendant que sa voiture est garée au soleil.
Le pare-soleil sur le pare-brise, ça aide un peu quand même.
Un peu plus loin, sous un arbre à l'ombre, Ghislaine et ses amis déjeunent avec leur nouvel accessoire indispensable.
Un frigo dans la voiture, c'est une glacière, mais avec un compresseur. Il est à 3 degrés et on peut boire frais.
Mais l'arme de nombreux conducteurs, c'est la climatisation.
La clim tourne à fond, oui.
Liliane est même résignée à conduire sous 39 degrés.
On se finit par s'habituer à la cinquième vague de chaleur, peut-être.
Une climatisation qui devrait être nécessaire. Jusqu'à 40 degrés sont attendus aujourd'hui et 38 demain.
Et c'est orange aujourd'hui dans le sens des départs sur l'arc méditerranéen, rouge dans le sens des retours, orange sur le reste du pays. Une quarantaine de vols d'EasyJet annulés demain, conséquence d'une grève du personnel. Ce week-end, ils demandent de meilleures conditions de travail, des perturbations également sur les rails, sur l'axe Paris-Normandie en raison d'une grève. Un train sur deux circulera.
RMC 8h37, place aux perchistes au championnat d'Europe d'athlétisme.
Les qualifications du saut à la perche masculin débutent aujourd'hui avec l'immense favori Armand Duplantis, recordman du monde. Côté français, ils seront trois, dont les frères Mathieu et Thibaut Collet, qui vont disputer ensemble leur tout premier grand championnat. Un moment forcément particulier pour les deux frères, Léna Marjac.
L'un est un habitué des grandes compétitions, Thibaut, 27 ans, cinquième des derniers championnats du monde et championnats d'Europe. Et puis il y a Mathieu, l'aîné, 31 ans, qui lui vit sa première sélection en équipe de France.
C'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'expérience alors que j'en ai 4 de plus. Quoi. C'est très facile de l'avoir avec moi en chambre, parce que bon, il apporte des informations avant même que j'ai besoin de les demander, il anticipe aussi.
Et donc en plus de partager leur chambre d'hôtel, les frères Collet vont partager aujourd'hui le même sautoir pour les qualifications du saut à la perche, l'occasion pour Thibaut, le plus jeune, de conseiller son frère.
Je vais pouvoir l'aider si je sens qu'il y a besoin qu'il temporise sur quelque chose. Quoi qu'il arrive, il y aura des échanges et des moments où on pourra s'aider mutuellement.
De l'entraide, oui, mais la compétition avant tout, pas de place aux affinités dans les moments importants pour Thibaut.
On a ce lien du sang qui fait quoi qu'il arrive, on s'aidera. Maintenant, s'il faut sauter plus haut, que ce soit lui ou moi, on le fera.
Sachant que leurs objectifs sont totalement différents. Mathieu Collet, l'aîné, vise une qualification en finale, alors que son petit frère Thibaut a le podium dans un coin de la tête.
Ça fait deux championnats que je fais cinquième, je veux faire mieux. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Une vingtaine de proches de Mathieu et Thibaut a fait le déplacement, dont Jacques, le grand-père, et bien sûr Philippe, le papa et entraîneur.
Et on suivra également le grand retour de Léon Marchand sur le 200 mètres papillon, début des séries à 10h29. Les championnats d'Europe de natation, c'est à suivre sur RMC, émission spéciale de 18h à 20h.
Le Quintet Plus, Clément, il se déroule aujourd'hui sur l'hippodrome de Cabourg, ce sera à 20h15.
Et le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori est le 5 Live Your Dreams, et son outsider le 9 Mix Cash.
Merci beaucoup Clément, prochain journal, ce sera à 9h. David est avec nous au 32-16. Bonjour David.
Oui, allô, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. On est en Isère, c'est ça David?
Oui, tout à fait.
Vous voulez nous parler des départs, des retours de ce week-end? Il y aura beaucoup de monde sur la route parce que vous êtes patrouilleur autoroute.
Oui, tout à fait. Et donc là, toute la semaine, je suis de 13h jusqu'à 20h. Et hier, on a eu quelque chose comme 9 véhicules en panne, donc pneus éclatés. Donc pensez bien à gonfler vos pneus.
C'est lié directement à la chaleur.
Ah oui, on a mesuré 77 degrés goudron. Donc je vous dis pas le goudron fond, c'est catastrophique. Et dans les camions, en roulant, on arrive à monter à 44, 45 degrés.
Dans les camions. Vous avez donc, pas la clim dans les camions des patrouilleurs?
Mais nous, le problème, c'est qu'on a la clim devant et on a des portes coulissantes derrière.
Ah ouais.
Et donc, on est obligé de les laisser ouvrir pour intervenir et pour faire un peu de ventilation. Bien sûr. Quoi, parce que ça suffit pas, parce que les camions sont assez conséquents. Mais je voulais dire aussi, surtout, quand les personnes tombent en panne, pensez à prendre de l'eau quand vous partez en vacances.
Parce que vous vous retrouvez avec des personnes en panne qui sont démunies, qui n'ont même pas d'eau pour se...
Complètement. Donc, comme hier, on a une famille de 5 personnes, donc avec 3 enfants. Heureusement que nous, on a de l'eau fraîche, on a une réserve d'eau dans le véhicule pour leur donner de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas du tout de l'eau. En plein soleil, c'est juste invivable. Les enfants étaient dans un état, mais catastrophique.
Avec face à ces chaleurs extrêmes, et notamment en raison d'une panne éventuelle, c'est bien aussi, parce que ça ne coûte pas si cher que ça, ça ne coûte pas très cher, c'est d'emporter une ou deux couvertures de survie, ça peut aider ça aussi?
Non.
Non
parce que la chaleur vient du sol. Donc la chaleur vient du sol, ça sert strictement à rien.
Merci David. Merci d'avoir été avec nous, David, patrouilleur autoroute sur la 49, et bon courage à vous parce que ça aussi il faut les signer. Ils font pas un boulot évident. David qui est avec nous au 32-16. Allez, dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Il fait chaud, on aimerait bien aller à la piscine, mais le problème c'est que les piscines municipales, elles sont fermées pour travaux, en tout cas un certain nombre d'entre elles. À tout de suite sur RMC, sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC 8h44. Il fait chaud, très chaud, tout le temps. La France subit depuis le 28 juillet sa 3e vague de chaleur de l'été, partie pour être l'une des plus longues jamais enregistrées dans le pays. Alors l'affluence dans les piscines municipales, rare lieu de fraîcheur, augmente fortement. Pourtant, à Paris, sur 42 piscines que compte la capitale, 11 sont fermées cet été pour des travaux de rénovation ou de maintenance. Un phénomène qui n'est pas isolé à l'échelle du pays, Charlotte Gaillard.
Depuis début juillet, les habitants du 20e arrondissement de Paris déchantent. Impossible de nager dans la piscine Alfred Nakache, fermée pour cause de travaux. Victorien est en colère de ne plus avoir accès à ce service en cette période de canicule.
C'est la seule manière, en fait, dans l'absolu, de se rafraîchir à Paris, mis à part les quelques cafés qui sont climatisés. Dans l'absolu, si le week-end on veut pas mourir dans son appart, faut aller à la piscine, il n'y a pas 3000 moyens, quoi.
Mohamed, qui vit juste à côté, regrette que les enfants ne puissent pas se baigner.
Moi, j'ai 3 filles qui sont au salon. Ils savent même pas où aller. Il fait tellement chaud avec un ventilateur. C'est franchement assez compliqué.
Et certains, comme Solène, abandonnent tout simplement l'idée d'aller à la piscine.
Voilà où on peut au final. Hein. J'essaye d'aller en dehors de Paris, trouver des petits coins où il y a un peu d'eau et tout, ou même genre les bases de loisirs.
La piscine Alfred Nakache, mais aussi une dizaine d'autres sont fermées tout l'été à Paris et partout en France, des bassins ferment tour à tour pendant cette période estivale, parfois par manque de maîtres nageurs, comme dans le Morbihan, ou pour des raisons sanitaires, comme dans les Pyrénées-Atlantiques, où une bactérie a été découverte lundi dans l'un des bassins de la piscine d'Oloron-Sainte-Marie, probablement apporté par un baigneur, selon Audrey Bergeret, responsable du pôle technique de la communauté de communes.
Parce que plus de fréquentation, donc plus de risque d'avoir une autre bactérie, une eau plus chaude, un chlore qui s'évapore avec l'effet de la chaleur. Et donc tout ça crée en fait un milieu idéal pour avoir une telle situation.
Derrière ces fermetures, c'est aussi le vieillissement du parc aquatique qui est pointé du doigt. Sur les 6000 bassins français, une bonne partie a plus de 50 ans. Or, leur durée de vie est estimée entre 30 et 40. Ils sont donc vétustes, comme le détaille Axel Lamotte, porte-parole de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs.
L'évaporation, l'eau est un corrosif terrible et
Donc c'est vrai que les piscines s'usent, même si elles sont entretenues. Et du coup, on arrive sur un parc un petit peu en partie vieillissant.
Pour faire face à ce problème, selon lui, il faut des équipements neufs.
Les réhabilitations, parfois, sont moins coûteuses, mais aussi moins durables. Il y a des nouvelles piscines avec des coûts d'exploitation qui sont moindres. Quand les circuits sont modernes, eh bien, ils sont plus performants et donc moins consommateurs d'énergie.
Selon la fédération, il faudrait donc construire aujourd'hui plusieurs centaines de piscines de proximité.
RMC 8h46, c'est une sécheresse historique. Les agriculteurs se disent, pour beaucoup d'entre eux, au bord du gouffre. Le gouvernement promet un plan d'aide massif. La FNSEA réclame des milliards d'euros d'aide. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, est mon invité dans un instant sur RMC et sur RMC Story. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 8h48, c'est une sécheresse comme la France n'en a jamais connue et le monde agricole désespère. Bonjour Annie Genevard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RMC, RMC Story. Vous êtes la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. Annie Genevard, 98 départements sont actuellement touchés par la sécheresse. 57 sont en situation de crise. 95% du territoire est concerné. C'est du jamais vu. Conséquence, la récolte de maïs, c'est un exemple, s'effondre de 35%. C'est au plus bas depuis 1980. Les deux tiers des nappes phréatiques sont sous les normales. La colère monte dans les campagnes. Le gouvernement promet un plan d'aide massif. Annie Genevard, la FNSEA chiffre déjà le besoin en aide à plusieurs milliards d'euros. Combien êtes-vous prêt à débloquer pour aider les agriculteurs ?
D'abord, il faut savoir exactement l'ampleur chiffrée des pertes avant d'annoncer des mesures. Je ne peux pas, moi, en responsabilité, être dans l'approximation. C'est l'objet de la réunion que j'ai convoquée le 27 août prochain avec l'ensemble des préfets qui doivent me faire une remontée précise des pertes de récolte. Nous avons évidemment des premiers éléments, mais pas encore un tableau d'ensemble. Toutes les récoltes n'ont pas encore eu lieu et il se peut qu'il pleuve, nous l'espérons tous, d'ici la fin du mois. Mais d'ores et déjà, on sait que les pertes sont extrêmement importantes. C'est une sécheresse et une canicule. Ce sont deux phénomènes météorologiques cumulés qui ont des effets dévastateurs sur notre agriculture. Vous avez cité quelques chiffres. On est inquiet aussi pour le fourrage, l'alimentation des animaux. Vous avez évoqué le maïs, mais on peut évoquer aussi le maraîchage de plein champ. Les pertes sont très importantes. Donc évidemment, l'État sera là dans son rôle de solidarité nationale. Et dès lors que nous aurons finalisé ce tableau, je pourrai donner des chiffres un peu plus précis.
Annie Genevard, je l'entends, c'est normal, vous devez d'abord évaluer le montant des dégâts. Malgré tout, la FNSEA, elle chiffre déjà, elle dit, par exemple, pour le fourrage, vous l'évoquiez à l'instant, pardon, la nourriture pour les bêtes, elle le chiffre déjà à 1 milliard d'euros, rien que pour le fourrage. Ce sont des sommes colossales.
Alors, nous verrons cela. Nous n'avons pas encore ces éléments qui nous permettent d'établir de chiffrages précis. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que vivent nos agriculteurs en ce moment implique une solidarité nationale. J'ai vu, et je les en remercie, que certaines collectivités territoriales avaient commencé à déployer des aides. Les assureurs seront au rendez-vous. La grande distribution doit aussi jouer sa partie. Donc c'est un grand effort de solidarité nationale duquel les Français ne seront pas exclus dans leur acte d'achat. Je les invite à acheter français des produits agricoles français.
Mais les prix vont augmenter, vous le savez.
Bien sûr, l'État sera là et si vous le permettez, je détaillerai un peu les choses. Alors les prix ont augmenté, moi je veux tout de suite rassurer, mettre fin... Non, pas nécessairement, je voudrais mettre fin à une petite musique qui monte. Il n'y a pas de hausse de prix général dans les rayons. À part peut-être sur quelques produits comme la salade en sachet, par exemple, mais j'encourage...
L'interprofessionnel fruits et légumes estime que la hausse des prix sera de 5 à 30%.
Alors, sera, on nous verrons bien, mais là, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, le prix payé aux producteurs ne sera pas nécessairement répercuté par la grande distribution. Il y a peut-être aussi un effort à faire par chacun. Donc, ne soyons pas alarmistes, parce que sinon les Français vont se détourner des produits agricoles de notre pays. Et vous savez, un pays qui abandonne ses agriculteurs, il abandonne l'espoir de se nourrir par lui-même. Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est dans l'intérêt de tous. Il faudra accepter des calibres de fruits un peu différents. Il faut que la grande distribution regarde quand un agriculteur demande une revalorisation de ses prix. Il faut accepter de privilégier l'origine France à chaque fois que c'est possible. Voilà. On a un effort de solidarité nationale à faire auprès de nos agriculteurs. Et c'est le sens du plan d'urgence massif que je vais déployer. Parce que on ne peut pas laisser les agriculteurs seuls dans cette épreuve terrible. Et donc,
on l'entend, Annie Genevard. Mais malgré tout, Annie Genevard, vous le savez, tout le monde le sait aujourd'hui, le dérèglement climatique, il est là. Et même semble bien s'accélérer. Sûr. Les épisodes de canicule, de sécheresse, d'inondation, de chute de grêle, de tempête, ils vont se multiplier. Jusqu'à quand l'État pourra aider le monde agricole? Est-ce que c'est pas un puits sans fond? Est-ce qu'il faut pas tout simplement changer notre modèle et investir dans ce sens?
Il ne le faut pas, en effet, mais on ne peut pas ne pas être aux côtés des agriculteurs par des aides d'urgence. C'est pourquoi je vais, dans les jours qui viennent, annoncer un volume d'aide qui sera à la main des préfets dans chaque département pour aider les agriculteurs qui ont des difficultés majeures de trésorerie, pour leur permettre de remettre en production, parce que c'est très important de travailler à la prochaine campagne. Je vais faire évidemment doter, armer puissamment l'indemnité de solidarité nationale pour tous ceux qui ne peuvent pas être assurés par les dispositifs classiques. Nous réfléchissons à un prêt sécheresse pour pouvoir faire la jonction avec les prochaines productions. Et puis, lors du prochain budget, nous aurons probablement des propositions à faire en matière de nouvelles mesures fiscales. Mais au-delà de ça, et vous avez raison, il faut travailler l'avenir, mais on n'a pas attendu cette crise majeure pour le faire. Moi, je travaille inlassablement à la transition. La transition, c'est permettre aux agriculteurs d'accéder à l'eau. C'est le sens de la loi d'urgence, c'est le fonds hydraulique.
Et il faudra aider les agriculteurs à investir pour changer de modèle, ça c'est
bien
certain.
Bien sûr. C'est l'objet des contrats d'avenir de souveraineté alimentaire que je mets en place à la rentrée. Évidemment qu'il faut parler d'avenir.
Merci Annie Genevard d'avoir été avec nous ce matin sur RMC, RMC Story. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, RMC 8h55. Et il est temps de passer la main aux grandes gueules en direct de 9h à midi sur RMC et RMC Story. Alain Marchal, salut Alain.
Bonjour à tous. Dans un instant, les GG avec Abel Boyer, l'éducateur, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur. Et puis nous serons avec notre prof de français, Fatima Idbounoua. Les mineurs impliqués dans les incendies. Ouais. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de défi sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un problème de fantasme aujourd'hui de violence et de feu chez ces mineurs? On essaiera de comprendre ce qui se passe dans leur tête. On regardera aussi la carte de France des restrictions d'eau. Est-ce qu'on va manquer d'eau potable? On en parlera avec vous, bien sûr, au 32-16. On s'intéressera aussi aux locations touristiques Airbnb avec le témoignage d'un gestionnaire de biens. Vous savez pourquoi? Il a découvert, à travers les gestions de biens, les réseaux de prostitution, alors qu'il pensait louer des meublés touristiques. Allez, restez avec les GG.
Les GG tout de suite sur RMC, RMC Story. Et bon week-end à tous!